Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 8. Nous ne prenons rien par conquête. Dieu merci. Deuxième partie. L'Illinois State Register demandait, à propos de la Californie, si on supporterait longtemps que ce jardin des délices reste assoupi dans sa luxuriance sauvage et improductive. Des multitudes d'Américains entreprenants se presseront vers ces prairies riches et accueillantes. Le bourdonnement de l'industrie anglo-américaine se fera entendre dans ces vallées. Des villes s'élèveront dans ces plaines et sur ces côtes maritimes. Et les ressources et richesses de la nation en augmenteront de façon inestimable. L'American Review, de son côté, évoquait les Mexicains s'abandonnant à un peuple supérieur, investissant leur territoire, bouleversant leurs coutumes, les surpassant, les soumettant et épuisant leur sang appauvri. Le Herald de New York déclarait, en 1847, que la nation Yankee tout entière est en mesure de régénérer et de libérer le peuple mexicain en quelques années. Et nous croyons qu'il est en partie dans notre destinée de civiliser ce merveilleux pays. La guerre à peine commencée, à l'été 1846, un écrivain de Concord, Henry David Thoreau, refusa de payer les impôts réclamés par l'État pour dénoncer la guerre mexicaine. Il fut jeté en prison et y passa la nuit entière. Ses amis, ayant sans consentement payé pour lui, il fut relâché. Deux années plus tard, il donna une conférence, « Résistance au gouvernement civil », qui fut ensuite publiée sous la forme d'un essai intitulé « Désobéissance civile ». Il ne faut pas nourrir un respect excessif pour la loi ou le droit. La loi n'a jamais rendu les hommes ne serait-ce qu'un peu plus justes, et par le respect qu'ils professent pour elle, même les individus les mieux disposés se font quotidiennement les agents de l'injustice. L'un des résultats naturels et des plus communs de ce respect indu pour la loi est qu'on peut régulièrement voir une colonne de soldats défilant dans un ordre admirable à travers collines et vallons pour se rendre à la guerre. Malgré eux, contre leur conscience et en dépit du sens commun, mais néanmoins au pas cadencé et le cœur battant. Les différentes confessions religieuses furent pour la plupart soit ouvertement en faveur de la guerre, soit timidement silencieuses. En général, aucune d'elles, excepté les congrégationalistes, les Quakers et les Unitariens, ne s'opposa clairement à la guerre contre le Mexique. Pourtant, un pasteur baptiste, le révérend Francis Wayland, président de la Brown University, donna trois sermons dans la chapelle de l'université, au cours desquels il déclara que seule la légitime défense justifiait les guerres, et qu'en cas de guerre injuste, l'individu devait lui résister moralement et refuser de la soutenir financièrement. Le révérend Theodore Parker, ministre de l'Église unitaire de Boston, combinait la critique éloquente de la guerre avec un profond mépris pour les Mexicains. Peuple lamentable, lamentable par ses origines, son histoire et son caractère, qui devrait finalement céder la place comme les Indiens l'avaient fait avant lui. « Oui, les États-Unis devaient s'étendre, disait-il, mais pas par la guerre. Par la simple force des idées et du commerce, ainsi que par le développement progressif de la race supérieure avec ses idées supérieures et sa civilisation supérieure, en étant meilleur que le Mexique, plus sage, plus humain, plus libre et plus viril. »
Des armes, des chouettes, des brillantes, des qu'il faut nettoyer souvent pour le plaisir, et qu'il faut caresser comme pour le plaisir l'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud au fond de la...
Ce racisme dont fait montre Parker était largement répandu. Delano, membre du Congrès, représentant de l'Ohio et Whig anti-esclavagiste, s'opposait farouchement à la guerre, tant il redoutait que les Américains se mélangent avec un peuple inférieur qui présente tout l'éventail des couleurs et qui, par une lamentable mixture de sang espagnol, anglais, indien et nègre, entraîne, dit-on, l'apparition d'une race d'individus paresseux et ignorants.
Pour mettre le feu aux dernières cigarettes au bout d'un verre français.
Plus la guerre durait et plus l'opposition se faisait forte. La Société américaine pour la paix fit paraître un journal, l'Advocate of Peace, qui publiait poèmes, discours, pétitions et sermons contre la guerre, ainsi que des témoignages vécus sur les horreurs de la guerre et sur la dégradation des conditions de vie dans les rangs de l'armée. Les abolitionnistes, par l'intermédiaire du libérateur de William Lloyd Garrison, dénonçaient la guerre comme une entreprise d'agression, d'invasion, de conquête et de pillage, caractérisée par la brutalité, la perfidie et toutes les autres facettes de la perversité nationale. En considération des efforts intenses des dirigeants nationaux pour susciter un soutien patriotique à la guerre, l'ampleur des critiques et de l'opposition déclarée était particulièrement significative. Des rassemblements pacifistes eurent lieu malgré les troubles organisés par des troupes patriotiques. L'armée s'approchant toujours plus près de Mexico, le Libérateur affirma audacieusement son espoir de voir les forces américaines vaincues. Tous ceux qui, à travers le monde, aiment la liberté et l'humanité doivent souhaiter aux Mexicains la plus éclatante des victoires. Nous espérons seulement que, si un sang devait être versé, ce soit celui des Américains, et que les prochaines nouvelles nous annonceront que le général Scott et toute son armée sont tombés aux mains des Mexicains. Si nous ne lui souhaitons, à lui comme à ses troupes, aucun désagrément physique, nous espérons néanmoins la plus éclatante défaite. Où se situait l'opinion publique dans ce débat? Il est difficile de le dire. Après l'engouement du début, les engagements volontaires commencèrent à diminuer. Les élections de 1846 prouvèrent qu'il existait à l'égard de Polk une forte aversion, mais sans qu'il soit possible de l'attribuer à la guerre. Au Massachusetts, un membre du Congrès, Robert Winthrop, qui avait voté en faveur de la guerre, fut élu magistralement contre un Whig pacifiste. Schroeder en conclut que, bien que la popularité de Polk se fût effondrée, l'enthousiasme général pour la guerre contre le Mexique demeurait fort. Mais il s'agit là d'une supposition. On n'interrogeait pas à l'époque l'opinion publique. Quant aux élections, rappelons que la majorité de la population ne votait pas. Dès lors, comment connaître son opinion sur la guerre? S'il est impossible d'évaluer l'ampleur du soutien populaire en faveur de la guerre, il existe, en revanche, des preuves que de nombreux travailleurs s'organisèrent pour s'y opposer. Avant la guerre, lorsqu'on discutait encore de l'annexion du Texas, des rassemblements de travailleurs en Nouvelle-Angleterre protestèrent contre cette idée. Un journal de Manchester affirmait « Nous avons gardé jusqu'ici le silence en ce qui concerne l'annexion du Texas, car nous voulions savoir si notre nation tenterait ou non d'accomplir un acte aussi bas qui donnerait aux hommes qui se nourrissent du sang des autres l'opportunité d'aller plus loin encore dans le péché de l'esclavage. N'avons-nous pas déjà suffisamment d'esclaves ?» Philip Foner rappelle qu'il y eut des manifestations de travailleurs irlandais contre l'annexion du Texas à New York, Boston et Lowell. En mai, lorsque la guerre avec le Mexique commença, les travailleurs new-yorkais organisèrent un grand rassemblement pour s'y opposer. De nombreux travailleurs irlandais y participèrent. Les orateurs y présentèrent la guerre comme un complot fomenté par les propriétaires esclavagistes et exigèrent un retrait immédiat des troupes américaines des territoires en question. La même année, une convention de l'Association des travailleurs de Nouvelle-Angleterre condamna la guerre et annonça que les travailleurs ne prendraient pas les armes pour soutenir les esclavagistes du Sud dans leur tentative de voler leur travail à un cinquième de nos concitoyens. Au tout début de la guerre, quelques journaux protestèrent également. Horace Greeley écrivit dans la Tribune de New York du 22 mai 1846 « Nous pouvons facilement vaincre les armées du Mexique, massacrer les Mexicains par milliers et même les pourchasser jusque dans leur capitale. Nous pouvons conquérir et annexer leur territoire. Et puis quoi? Qui peut croire qu'une suite de victoires sur le Mexique et l'annexion de la moitié de leur province nous apporteront plus de liberté, une moralité plus élevée et une industrie plus prospère que celle que nous possédons déjà? La vie n'est-elle pas assez misérable comme cela? Et la mort ne vient-elle pas assez tôt sans avoir à recourir à la hideuse machine de guerre? Que dire de ceux qui combattirent durant cette guerre? Ces soldats qui marchèrent, suèrent, tombèrent malades ou moururent? Les soldats mexicains, les soldats américains. Nous connaissons peu de choses sur la réaction des soldats mexicains. Nous savons que le régime mexicain était despotique. Le Mexique, peuplé en majorité d'Indiens et de Métis, était dirigé par les créoles, les blancs d'origine espagnole. Il y avait 1 million de créoles, 2 millions de Métis et 3 millions d'Indiens. Le peu d'entrain naturel des paysans à combattre pour défendre un pays possédé par les propriétaires terriens fut-il balayé par un élan nationaliste contre l'envahisseur? En revanche, nous en savons beaucoup plus sur l'armée américaine, composée de volontaires et non de conscrits, attirés par l'argent et l'opportunité d'une ascension sociale liée à une promotion dans les forces armées. La moitié de l'armée du général Taylor se composait de récents émigrants, irlandais et allemands pour la plupart. Aux alentours des années 1830, 1% de la population des États-Unis était née à l'étranger. À l'époque de la guerre contre le Mexique, ils étaient 10%. Leur patriotisme n'était pas très virulent. Leur adhésion à tous les arguments que l'on pouvait trouver dans les journaux ne devait pas l'être non plus. D'ailleurs, nombre d'entre eux désertèrent pour rejoindre le camp des Mexicains, attirés par l'argent que ceux-ci leur offraient. Certains s'enrôlèrent dans l'armée mexicaine et formèrent leur propre bataillon, le bataillon San Patricio, du Saint-Patrick cher aux Irlandais. Il semble bien y avoir eu, au début, un certain enthousiasme au sein de l'armée, attisé par le montant de la solde et le patriotisme. L'esprit guerrier était assez fort dans l'État de New York, dont la législature autorisa le gouverneur à engager 50 000 volontaires. Il y eut des rassemblements de foule de quelque 12 000 personnes à Philadelphie, et 3 000 volontaires dans l'Ohio. Cet esprit originel s'essouffla rapidement. Des affiches demandaient aussi des volontaires dans le Massachusetts. Elles promettaient une solde de 7 à 10 dollars par mois, ainsi qu'une prime fédérale de 24 dollars et 64 hectares de terre. Un jeune homme répondit anonymement dans le Chronicle de Cambridge. « Loin de moi l'idée de vous rejoindre, ou de participer de quelque façon que ce soit à cette guerre injuste contre le Mexique. Je n'ai aucun désir de participer à de si glorieuses boucheries d'hommes et d'enfants, comme on a pu en voir lors de la prise de Monterrey, etc. Je ne souhaite pas non plus me mettre sous l'autorité d'un petit tyran militaire, au moindre caprice, duquel je serais contraint d'obéir implicitement. Non, monsieur. Aussi longtemps que je peux travailler, mendier ou me rendre à l'hospice, je n'irai pas au Mexique pour coucher sur un sol détrempé, y mourir à moitié de faim, à moitié rôti, bouffé par les moustiques et les mille pattes, piqué par les scorpions et les tarentules, marcher, faire l'exercice, être fouetté, puis être collé là, pour me faire tirer dessus, tout ça pour 8 dollars par mois et des rations pourries. Non, j'irai pas. Les boucheries humaines ont fait leur temps et un jour viendra bientôt où le soldat professionnel sera mis sur le même plan que le bandit ou la brute. » On fit de plus en plus état d'hommes contraints à se porter volontaires ou obligés de s'enrôler. On faisait des promesses extravagantes et on pratiquait le mensonge éhonté pour monter des unités de volontaires. À la fin de 1846, le recrutement s'effondrant, on en abaissa les critères physiques. En outre, toute personne fournissant des recrues acceptables obtenait 2 dollars par tête. Même cela ne fonctionna guère. Début 47, le Congrès autorisa 10 nouveaux régiments de l'armée régulière à servir pendant la durée de la guerre en leur promettant 40 hectares de terre du domaine public pour leur permettre un retour honorable à la vie civile. Pourtant, l'insatisfaction continuait à croître. Les volontaires se plaignaient qu'on accordât aux soldats professionnels un traitement de faveur. Les engagés se plaignaient d'être traités en inférieur par les officiers. De surcroît, la réalité des combats vint rapidement souffler le froid sur les rêves de gloire et sur toutes ses promesses. Sur le Rio Grande, devant Matamoros, l'armée mexicaine, forte de quelques 5000 hommes sous les ordres du général Arista, faisait face aux 3000 soldats des troupes du général Taylor. Les obus se mirent à voler. À l'écart du champ de bataille, dans les campements de l'armée, le charme des affiches de recrutement était rapidement oublié. À l'été 1845, un jeune officier d'artillerie écrivait à propos des hommes basés à Corpus Christi, avant même que la guerre ne commence. « Nous nous devons à présent de mentionner les maladies, les souffrances et les morts imputables à une négligence criminelle. Deux tiers des tentes de campagne de l'armée étaient déchirées ou moisées, utilisées dans une contrée noyée sous le déluge 3 mois par an. De novembre à décembre, la pluie tombait avec violence. Les pluies furieuses du nord noyaient les piquets de tentes et déchiraient les toiles pourries. Durant des jours et des semaines, chaque accessoire dans des centaines de tentes était complètement trempé. Au cours de ces terribles mois, les souffrances des malades dans les infirmeries de campagne surpeuplées dépassaient l'imagination. Le 2e régiment du Mississippi se déplaçant vers la Nouvelle-Orléans était transi de froid et miné par la maladie. Le chirurgien du régiment témoigna. 6 mois après que notre régiment se fut engagé dans l'action, 167 hommes étaient morts et 134 autres envoyés à la vie civile. Le régiment fut confié au service des transports, 800 hommes dans 3 bateaux. Le chirurgien poursuivait. Le nuage noir de la maladie continuait à planer au-dessus de nous. Les cales des bateaux furent rapidement pleines de malades. La puanteur y était insupportable. La mer se fit agiter. Dans la longue nuit sombre, le roulis jetait le malade d'un côté à l'autre, meurtrissant ses chairs contre les rudes coins de sa couchette. Les cris furieux des délirants, les lamentations des malades et les gémissements mélancoliques des mourants nous maintenaient dans une confusion continuelle. Durant 5 semaines, nous sommes restés confinés dans les profondeurs des bateaux et avant que nous n'accostions au Brassos, nous avions confié 28 de nos hommes au flot sombre. Pendant ce temps, aussi bien par voie de terre que par la mer, les forces anglo-américaines entraient en Californie. L'acquisition de la Louisiane par Jefferson avait doublé le territoire des États-Unis en l'étendant jusqu'aux Rocheuses. Au sud-ouest se trouvait le Mexique, qui avait pris son indépendance après une guerre révolutionnaire contre l'Espagne en 1821. Un vaste territoire qui incluait le Texas et ces territoires qui forment aujourd'hui le Nouveau-Mexique, l'Utah, l'Arizona, la Californie, le Nevada, ainsi qu'une partie du Colorado. En 1836, après un soulèvement organisé avec le soutien des États-Unis, le Texas s'était emparé du Mexique pour se proclamer République à une seule étoile. En 1845, le Congrès américain l'intégrait à l'Union en tant qu'État à part entière. James Polk siégeait alors à la Maison-Blanche. Ce démocrate expansionniste avait confié à son secrétaire à la Marine, le soir même de son investiture, que l'un de ses principaux objectifs était d'acquérir la Californie. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Howard Zinn.